Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Opus Dei, ce seul nom suffit à réveiller bien des fantasmes. Depuis le Da Vinci Code et son fameux moine appelé Silas, l'Opus Dei, institution de l'église catholique romaine fondée en 1928 par Saint José Maria Escrivá, traîne auprès de l'opinion publique une image sulfureuse. Au-delà des caricatures, qu'est-ce que l'Opus Dei? Qui en fait partie? Que vivent ses membres? Et pourquoi cette institution respectée de l'église catholique, suscite-t-elle encore parfois défiance et suspicion? C'est ce que je vous propose de voir ensemble ce matin. Voilà, Monseigneur de Rochebrune, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes notre invité ce matin parce que vous êtes de passage à Toulouse et surtout, vous avez publié un ouvrage aux éditions du Cherche Midi qui s'appelle « Opus Dei, confidence inédite » avec un certain Philippe Legrand. Peut-être avant qu'on vous présente davantage, enfin non, je vais quand même dire, vous êtes donc le vicaire de l'Opus Dei pour la France. Peut-être on verra, en gros, c'est son responsable pour la France. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née l'idée de cet ouvrage? Parce que l'Opus Dei donne une longue interview avec donc le directeur de la communication de Paris Match, c'est quand même assez inédit, comme le titre. Quelle est la genèse un peu de cet ouvrage et pourquoi l'Opus Dei s'est lancé dans cette opération de communication?
Alors, nous avons accepté de faire ce livre. Enfin, j'ai accepté de faire ce livre avec Philippe Legrand suite à une proposition qu'il m'a faite. Cet homme avait écrit il y a quelques années un livre sur Mère Teresa et il est intéressé par le sujet religieux de temps en temps. Il écrit, il travaille effectivement à la communication de Paris Match, il travaille aussi chez RFM, etc.
Et RMC, non ?
RFM.
RFM.
Et ensuite, si vous voulez, je reçois régulièrement des journalistes à déjeuner pour leur parler de l'Opus Dei, pour essayer de nous faire connaître en direct. Et on m'avait suggéré dans mes conseillers en communication qu'il avait rencontré dans des émissions où il fallait parler dans, vous voyez, des émissions où on parle des saints, Mère Teresa, Saint José Maria, le fondateur de l'Opus Dei. Il m'avait dit que c'était quelqu'un d'intéressant. Et effectivement, dans le déjeuner que nous avons partagé ensemble, est née cette idée qui est venue de lui. Il m'a demandé, est-ce que si je vous posais des questions, mais toutes les questions que les gens se posent, est-ce que vous accepteriez de répondre avec clarté, avec ouverture? Et je me suis dit que venant d'une personne qui ne venait pas de la presse catholique ou du monde catholique, dans une maison d'édition qui est le Cherche Midi, qui est aussi en dehors des circuits catholiques, ça pouvait être intéressant, vous voyez.
Alors du coup, c'est certainement... Vous avez eu quelques échos déjà peut-être de cet ouvrage? Parce que Radio Présence, on peut imaginer que c'est pas tout à fait le même écho que dans d'autres médias. Est-ce que c'est un livre qui marche? Est-ce que vous avez
d'autres
émissions de télé
ou... Oui. Il y a eu un certain nombre d'émissions. Il s'est bien vendu. Écoutez, il était en vente jusqu'à Noël à la FNAC. Avec sa couverture rouge qui attire l'attention, et aussi dans certains supermarchés, si bien que je suis plutôt content, et la maison d'édition aussi, qu'il ait pu atteindre le grand public, parce que c'était notre objectif, parler à des gens qui vaguement ont pu entendre parler de l'Opus Dei, mais qui ne connaissent pas forcément quelque chose à la religion, et qui se posent, et qui, comme ça, en voyant cette proposition de livre, pouvaient l'acheter. Et donc, je pense, de ce point de vue-là, on a pu toucher des gens, j'allais dire, très loin des sacristies.
Alors du coup on va s'essayer donc à une émission grand public sur l'Opus Dei, même si on a un certain nombre d'auditeurs qui sont des catholiques et des catholiques pratiquants, peut-être même certaines qui connaissent l'Opus Dei, tout simplement par le début, commençons par le début, donc ce fameux Saint José Maria Escrivá de Balaguer, donc fondateur de votre institution, puisque ce n'est pas un ordre, et qui donc a été canonisé, donc déclaré saint par l'Église. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le présenter? J'ai lu dans votre ouvrage que c'est un peu à 26 ans qu'il a reçu la grâce comme une sorte de révélation de la création, en tout cas des débuts de l'Opus Dei. Alors qui était cet homme, peut-être son tempérament, le contexte dans lequel il a eu cette intuition première?
C'était un homme né dans les Pyrénées espagnoles, donc finalement pas très loin d'ici, mais de l'autre côté des montagnes. Et donc espagnol, vous l'avez bien prononcé son nom avec l'accent espagnol, Saint José Maria, est né en 1902, donc c'est un enfant du XXe siècle, qui est décédé en 1975, effectivement canonisé en 2002. Et c'est un prêtre qui a été donc ordonné prêtre en 1925. Il avait 23 ans, était très jeune. Et trois ans plus tard, en 1928, il avait 26 ans, disait-il, la grâce de Dieu et la bonne humeur, et rien de plus. Il était seul à Madrid pendant une retraite spirituel qu'il faisait chez les lazaristes à Madrid. Là est venue cette intuition qu'il a sentie divine, hein, du Saint-Esprit, quelque chose de charismatique, si vous voulez, une expérience spirituelle, que ce message de l'appel à la sainteté n'était pas adressé uniquement aux prêtres, aux religieux qui quittaient le monde, mais s'adressait vraiment aux entrailles du monde, c'est-à-dire à tous les laïcs, hein, à tout le monde, et qu'au milieu du monde, on peut vivre une vie intensément chrétienne. Ça, c'est son intuition. Ce message est devenu une institution, l'Opus Dei, qui est donc née avec lui en 1928, et rapidement ensuite, dans les années 30, avec quelques étudiants, et surtout ensuite dans les années 40, 50, etc., après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, l'Opus Dei s'est internationalisée, et maintenant elle existe dans beaucoup de pays.
Alors peut-être vous pouvez dire aussi ce que ça avait un petit peu de novateur que d'avoir cette intuition, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement dans l'Église catholique, mais en 1928, voilà cet appel à la sainteté pour tous les baptisés, peut-être le contexte était différent, rappelez-nous ce que ça avait de spécial.
Tout à fait. Vous ne pouvez pas imaginer sa joie en voyant que dans le Concile Vatican II, cet appel à la sainteté dans l'Église a résonné donc de manière puissante, hein, conciliaire, on va dire. Mais
j'en situe pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, donc le Concile Vatican II, c'est ce grand concile de l'Église qui a eu lieu de 1962-1965, réformateur, je ne sais pas si on peut dire comme ça, en tout cas aggiornamento, comme on dit en italien, et qui donc, entre autres, a remis au goût du jour la vocation à la sainteté de tous les baptisés.
Voilà. Exactement. Donc en 1928, dans une Espagne qui était très cléricale, et d'ailleurs, le monde était assez clérical, hein, c'est-à-dire que on mettait en avant souvent le clergé, les gens consacrés à Dieu, qui étaient des points de référence. Hein, que faut-il penser ? Eh bien, dans une société peut-être très très chrétienne, mais en même temps marquée par un début de guerre civile, puisqu'en 36 a explosé la guerre civile en Espagne. Mais dans ce monde-là, l'idée pour un laïc pieux, qui veut faire de sa vie quelque chose de spirituel, eh bien, logiquement, l'orientation, c'était d'aller au séminaire, d'aller voir dans des congrégations religieuses, mais pas de se marier, d'avoir un travail professionnel, et de vivre alors, chrétiennement, intensément sa vie de foi. Ça ne rentrait pas dans la culture. Hein. Le laïc pieux, il était bon pour aller dans les ordres.
Donc, intuition donc, importante. Alors, vous allez nous dire un mot après de son développement, de cette intuition. Peut-être, pouvez-vous nous dire aussi de la manière dont ça a été accueilli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Opus Dei est parfois objet de grandes suspicions de la part de l'opinion publique, parfois à l'intérieur un peu de l'Église. Mais lui-même, au début, probablement, a dû un peu déranger, non ?
Oui. Alors, Saint José Maria a été un fils toujours très fidèle de l'Église et il a, je dirais, c'est dans les gènes, hein, dans la spiritualité, cette fidélité, cette loyauté aux évêques, aux saints-pères, si bien que les approbations de l'Opus Dei, le fait d'informer et d'être très clair avec la hiérarchie de l'Église locale au départ, à Madrid et ensuite à Rome, a toujours été sa logique. Mais il est vrai que, surtout dans les années 40, Ce phénomène, hein, qui marquait le monde étudiant, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de jeunes étudiants qui trouvaient, hein, ce message, cette spiritualité de sanctification du travail, de mettre Dieu dans son travail, dans sa vie. Eh bien, ce message-là a choqué ou étonné dans certains milieux ecclésiastiques, si bien qu'effectivement, il a dû subir quelques campagnes, parfois même de calomnie, où on a suspecté que une de ses premières œuvres, qui s'appelait Chemin, hein, qui était une
premier
collection
livre de, donc
voilà
oui.
hein, une collection
qui était un
de,
best-seller ouais.
voilà et bien a été envoyé à l'Inquisition à Rome à ce qu'on appelait auparavant la congrégation à ce qu'on appelle aujourd'hui la congrégation pour la doctrine de la foi donc le Saint-Office à l'époque pour être révisé parce que et même pour éventuellement certains avaient dit il faut brûler ce livre donc vous voyez les choses se sont pas passées tout à fait simplement mais en même temps comme l'Opus Dei est fondamentalement catholique dans ses gènes, je veux dire, il y a toujours une confiance énorme à faire à l'institution. Et donc, c'est normal aussi que quand on arrive hein, dans une scène qui est préexistante, ben, faut se faire une place, faut se faire connaître, etc. Et donc, l'œuvre du temps est là. En même temps, on voit que c'est pas terminé puisque l'Opus Dei encore aujourd'hui n'est pas très bien connu, et, ou en tout cas mal connu. C'est aussi la raison de ce travail, de ce livre, de cette émission. Donc, patience et en avant.
Donc, il faut dire donc, que Opus Dei, ça veut dire œuvre de Dieu, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu la spiritualité propre à l'Opus Dei ? Parce que donc, c'est cet appel à la sainteté pour tous les baptisés, mais à l'intérieur de ça, il y a une attention très particulière qui est donnée à la sanctification par le travail et dans la vie quotidienne. Alors déjà, il faut peut-être expliquer ce que ça veut dire que sanctification, et puis pourquoi cette attention particulière au travail et à la vie ordinaire.
Alors, on appelle travail toute occupation, je dirais, séculière, enfin, de la journée, parce qu'un chômeur qui cherche un emploi, la recherche d'un emploi est un travail. Une grand-mère qui s'occupe de recevoir chez elle un petit enfant, hein, son petit-fils, et exerce aussi un travail. Donc on peut dire la sanctification du travail, c'est la sanctification de toutes les réalités quotidiennes, ordinaires, tout ce qu'on a à faire. Eh bien, ajouter...
Sanctification déjà, ça veut dire quoi?
Alors, sanctification, ça veut dire chercher à mettre, justement, un motif de sainteté, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Hein, la sainteté, c'est soyez saints comme mon Père est saint, dit le Seigneur. C'est-à-dire qu'il nous faut chercher à rejoindre ce Dieu d'amour qui nous a créés hein, et remplir notre vie d'amour. Hein, la sainteté, il ne faut pas l'avoir uniquement à un niveau moral. Hein, certes, nous avons les 10 commandements, mais il faut l'avoir aussi, nous les chrétiens, comme cette recherche d'identification au Christ. Et c'est précisément cet esprit de l'Opus Dei qui est très imprégné de la filiation divine, c'est-à-dire de cette recherche d'identification au Christ, Fils de Dieu, hein, Fils de Dieu le Père. Eh bien, se remplir d'amour et faire les choses par amour de Dieu, par amour du Christ, cirer ses chaussures et en même temps élever un peu sa pensée vers le ciel, hein, en se disant, ben, je nettoie quelque chose, peut-être que dans ma vie je dois nettoyer beaucoup de choses et rendre les choses brillantes, plus belles, et trouver un moment de transcendance, si vous voulez, dans ce qui est ordinaire, eh bien, c'est la concrétisation d'une vie contemplative au milieu du monde. Il disait, Saint José Maria, notre cellule, en prenant l'image des religieux qui vivent dans des cellules, notre cellule, c'est la rue. Et nous sommes des contemplatifs au milieu du monde. C'est-à-dire que, en voiture, vous voyez que je suis venu ici en traversant le pont Saint-Michel, eh bien, en voyant la Garonne, en voyant le paysage, tout cela, eh bien, j'ai élevé mon cœur en action de grâce vers le ciel, en louange, parce que c'est beau, hein, parce que nous sommes dans une belle ville de Toulouse.
Alors, et la place donnée au travail, la sanctification dans le travail, comment vous pourriez résumer un peu cette spiritualité qui est très, très profonde à l'Opus Dei ?
Oui. Alors, si on prend le travail professionnel en tant que tel, vous voyez, ce qui occupe aussi une grande partie hein, de la vie des personnes, hein, la vie active, je dirais un moyen pour mettre Dieu dans son travail, c'est d'abord de le réaliser du mieux possible. Je m'explique. Essayez d'être ponctuel, d'être précis, d'être soigné, sans être caricatural, hein, mais essayez d'être un bon travailleur, un bon collègue, une personne au service des autres. Enfin, exercer, voyez, une bonté dans le travail, faire un bon travail, être bon dans son travail, c'est cela, sanctifier son travail. Et comme il le disait, justement parce qu'il y a une référence avec la transcendance...
Donc il, c'est Saint José Maria.
Saint José Maria, pardon, excusez-moi. Comme il le disait, ma table de travail est comme un autel. C'est-à-dire que je peux offrir les choses à Dieu. Donc il y a un vrai mouvement aussi de verticalité. Mon travail, eh bien, je le fais face au Créateur et je l'offre avec un mouvement personnel, hein, de prière, quelque chose comme ça. Et évidemment, on ne peut pas omettre le mouvement horizontal, c'est-à-dire la solidarité avec les autres. On ne peut pas imaginer progresser devant Dieu sans progresser en lien de fraternité, d'amitié avec, avec ses proches. Hein. Donc mettre Dieu dans son travail, c'est vivre ces deux dimensions, verticale, horizontale.
Voilà, merci pour ce résumé. Si on devait, avant de faire une première pause, donner quelques informations plus précises ou plus techniques en fait sur l'Opus Dei, l'Opus Dei a un statut particulier, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un ordre religieux, vous ne dépendez pas en fait directement des évêques, si j'ai bien compris, même si il y a un regard bienveillant ou un accompagnement, on peut l'imaginer. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le statut particulier donc de l'Opus Dei? Qu'on appelle aussi l'œuvre dans votre vocabulaire, et puis après nous dire un petit peu quelle est son importance, son rayonnement dans le monde et en France.
Eh bien, alors l'œuvre, l'Opus Dei est une prélature personnelle, ce qui est une figure juridique...
Inédite, non ?
Oui, nouvelle, depuis le Concile Vatican II. En fait, il a fallu attendre le nouveau code de droit canonique de 1983, hein, c'est-à-dire la réforme qui a suivi le Concile, pour que cette figure existe. C'est-à-dire, une prélature personnelle, c'est une institution s'occupe des personnes, c'est pour ça qu'on dit personnel, hein, avec une juridiction qui n'est pas territoriale comme un diocèse, qui en général, les diocèses c'est les départements en France en général, donc c'est pas une circonscription locale, hein, mais c'est une œuvre qui agit sur un certain nombre de personnes. Et qu'est-ce qu'elle apporte ? Eh bien, pour les personnes qui sont incorporées à la prélature, donc qui font partie de la prélature de l'Opus Dei, eh bien, une formation. Le travail de l'Opus Dei, c'est un travail de formation des personnes, d'accompagnement des personnes et d'institutions éventuellement, une école, une résidence, etc.
Attendez juste, donc prélature, ça veut dire que vous dépendez donc directement de Rome ?
De la congrégation pour les évêques,
voilà.
Comme les diocèses.
D'accord, vous êtes comme un diocèse d'une certaine
donc,
manière.
Donc si vous ouvrez l'annuaire de la conférence des évêques de France, vous trouverez dans la liste des circonscriptions ecclésiastiques, la liste des diocèses, ensuite la prélature de la mission de France, hein, des éparchies orientales, l'ordinariat ou le diocèse aux armées, etc. Et nous sommes au sein de ces différentes circonscriptions qui ne sont pas que des diocèses.
Voilà.
Il y a aussi des...
Est-ce que vous expliquez pourquoi historiquement ça s'est présenté comme ça ? C'est...
Parce que...
Ça peut être un premier objet d'interrogation pour...
Oui. Ben, en fait, l'ITER juridique de l'Opus Dei a été long. Hein. Avant d'être prélature, puisque ça n'existait pas, l'Opus Dei était un institut séculier. Mais les instituts séculiers font partie plutôt de la branche de la vie consacrée. Donc elle n'était pas celle précisément des laïcs au milieu du monde. Donc si vous cherchez une institution qui regroupe des laïcs et des prêtres, hein, un corps de laïcs et de prêtres, avec une certaine unité, les prêtres proviennent des laïcs, hein, et vivent ce même esprit que les laïcs. Donc il y a une grande interaction organique entre prêtres et laïcs. Cette structure-là, eh bien, c'est une forme d'église particulière ou de circonscription ecclésiastique. Donc c'est pour cela que un diocèse, ça convenait pas, mais une prélature qui justement n'est pas territoriale, ça convenait. Il y a un évêque prélat, hein, enfin, il vient d'être actuellement nommé par le pape, le prélat de l'Opus Dei, Mgr Fernando Eucariste, et un certain nombre de prêtres. Donc il y a 2000 prêtres de l'Opus Dei dans le monde.
Voilà, 90 000 membres.
90 000 membres.
Dans 60 pays.
Exactement.
Et 1000 en France.
Exactement.
Alors, on va faire une première pause musicale. Je rappelle le titre de pas votre ouvrage, mais du livre d'entretien donc, qui a été fait avec vous, Monseigneur de Rochebrune, avec Philippe Legrand, donc, entre autres directeur de la communication de Paris Match. Opus Dei, confidence inédite. Et puis dans la deuxième partie, on va être un peu plus poil à gratter. On va aborder les questions peut-être qui fâchent, ou en tout cas qui font que l'Opus Dei peut être parfois sujet d'interrogation ou de suspicion.
Emmanuel Pella.
Voilà cette émission ce matin, Opus Dei, qui sont-ils vraiment? Avec donc Monseigneur de Rochebrune, qui est donc vicaire de l'Opus Dei pour la France, c'est-à-dire, pour faire court et caricatural, c'est le grand chef de l'Opus Dei pour la France, et donc qui sort un livre d'entretien donc aux éditions du Cherche Midi, Opus Dei, confidence inédite avec Philippe Legrand. Je l'ai dit précédemment, mais peut-être que certains nous prennent en cours de route, directeur de la communication de Paris Match. Voilà. C'est un livre, c'est pas un livre à scandale, mais enfin, il va quand même pas avec le dos de la cuillère, comme on dit simplement. Et je vous ferai grâce de certains chapitres, entre autres quand il interroge sur un supposé hitlérisme de votre fondateur. Bon, on peut dire que là, on n'ira peut-être pas jusque-là sur Radio Présence. Toujours est-il que il y a quand même beaucoup de questions autour de l'Opus Dei, donc du grand public. Et parfois même des catholiques moyennement pratiquants ou des catholiques pratiquants. La première chose, c'est les liens de l'Opus Dei avec le franquisme, puisque donc l'Opus Dei n'est pas né sous le franquisme, mais rapidement le franquisme l'Opus Dei a existé sous le régime de Franco. Alors évidemment, c'est toujours difficile de faire de la morale historique en revenant un peu en arrière, mais toujours est-il qu'il y a un certain nombre de ministres de Franco qui étaient donc des membres de l'Opus Dei. Alors il vous interroge sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez recontextualiser peut-être, et puis après je vous titillerai peut-être sur ce point.
Très bien. Alors effectivement, à la sortie de la guerre civile, l'Espagne a vécu environ depuis 1939 jusqu'à 1975 des dizaines d'années d'un régime autoritaire qui n'était pas une démocratie comme celle que nous connaissons maintenant. Et dans laquelle les Espagnols ont vécu. Les catholiques espagnols ont vécu. L'Église catholique a pu exercer le culte et ses activités avec liberté dans cette Espagne sous Franco. Il est évident qu'on peut se poser des questions sur la manière de vivre les droits de l'homme, etc. Il y a eu un certain nombre d'exilés de ce régime, en France notamment.
Au moment de la guerre civile et après.
Et après la guerre civile même aussi. Et nous avons reçu en France des exilés du régime de Franco de l'Opus Dei. Parce que justement, je viens à l'attitude de l'Opus Dei, c'est qu'elle est apolitique, comme l'Église en général. L'Église, elle essaye dans un pays donné de réaliser son travail. Donc il y a toujours un dialogue, une tentative de pouvoir travailler en paix. Et elle ne donne pas de consignes politiques à ses fidèles, l'Église. De même, l'Opus Dei ne donne pas.
Pas toujours, en tout cas.
Pas toujours.
Parfois, elle fait comprendre entre les lignes certains interdits.
Elle peut faire comprendre quelque chose, mais effectivement, de manière assez rare. En Espagne, dans le régime de Franco, il y avait plusieurs attitudes possibles. Il n'y avait pas que la dissidence du régime. On pouvait être phalangiste, c'est-à-dire d'extrême droite et très rigoureusement d'extrême droite. On pouvait être, comme l'ont été ces quelques ministres de l'Opus Dei, technocrates à la fin des années 50, quand Franco a voulu faire entrer l'Espagne dans l'Europe, préparer l'Espagne pour entrer dans l'Europe, il a fait appel précisément à des techniciens. Certains d'entre eux étaient de l'Opus Dei. On pouvait être monarchiste. De fait, la transition espagnole après Franco, ça a été une monarchie. De type démocratique, républicaine, etc. Mais il y a un roi en Espagne. Et on pouvait être nationaliste. Ce qui existe toujours, les mouvements nationalistes catalans, basques, etc. Donc en fait, pour un catholique, il n'y avait pas qu'une seule étiquette possible. Et les gens de l'Opus Dei ont vécu avec leurs engagements, ceux qu'ils ont voulu. Certains ont été se sont mis au service de leur pays, comme ça me semble être tout à fait légitime, de la société.
Et c'est-à-dire que donc certains de ces ministres de l'Opus Dei, membres des cabinets ministériels, ministres, donc. Non, ils n'étaient pas ministres eux-mêmes, ils étaient membres des
certains
cabinets ministériels.
Certains ont été.
Sous Franco, je crois, ont été de zélés franquistes ou.
Je crois pas, parce que je ne suis pas spécialiste de l'histoire franco, mais apparemment, d'après les auteurs que j'ai pu consulter, ce n'étaient pas des politiciens. C'était plutôt ministre du commerce, vous voyez, ou de l'agriculture, ou des affaires étrangères. Donc depuis la fin des années 50, lorsque Franco s'est recentré jusqu'dans les années 70, il est certain que quand je vous ai parlé tout à l'heure de la sanctification du travail, en vous disant il faut bien travailler, c'est une manière d'offrir de sa vie, se sanctifier, etc. Il est certain que ce message attire des gens qu'on peut dire brillants, ou si vous vous mettez à bien travailler, vous devenez brillant. Et il est certain qu'il y a dans l'Opus Dei de tout. Des personnes qui réussissent dans les professionnels, des personnes qui ont des échecs, mais il y a aussi des personnes qui ont réussi dans leur vie professionnelle. Et donc certaines de ces personnes qui étaient plutôt des technocrates à l'époque, on appelait ça des ministres technocrates, ont été recrutées pour leur qualité professionnelle. Simplement, l'Opus Dei a commencé en France dans les années 50, pile au moment où des ministres ont été nommés sous Franco. Si bien que nous, en France, et en plus, ici à Toulouse, on a une histoire riche avec l'Espagne, il y a eu un malentendu énorme de voir une institution d'église arriver alors qu'on parlait d'elle dans une question politico-religieuse. Et à partir de cette ambiguïté certainement importante, eh bien, un malentendu a commencé avec le monde des médias. À ce moment-là, dans les années 50, en France.
Alors, on avance dans les critiques. Il y aura peut-être beaucoup d'autres choses à dire autour de ça, mais il faut avancer. Oui. L'autre chose, c'est l'élitisme qui peut être reproché à l'Opus Dei. Alors, il n'en est pas forcément fait énormément mention dans ce livre d'entretien. Juste à un moment, Philippe Legrand vous taquine en disant, parce que donc vous vous défendez d'un certain élitisme, même si vous venez de dire que peut-être ça attire des gens qui font partie des dites élites. Il vous taquine en vous disant, oui, mais bon, par exemple, le siège à Paris est dans le 16e arrondissement, dans un hôtel particulier tout à fait sympathique. C'est pas les jésuites qui se sont installés en banlieue. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette critique d'élitisme? C'est-à-dire que vous êtes exigeant, on le verra un peu plus tard, c'est une spiritualité exigeante, et donc vous touchez, ou voudriez, c'est un peu ce qu'on vous prête comme intention, d'abord toucher les élites.
Bien, je pense que c'est pas exact. Hein, c'est pas exact. Quand vous proclamez l'appel universel à la sainteté, c'est-à-dire de dire la sainteté elle est pour tous, vous dites pas la sainteté elle est pour les élites. Donc, elle est vraiment pour tous. Et dans l'Opus Dei, il y a ici à Toulouse un facteur à la retraite qui était postier. C'était pas un grand cadre de la poste, des PTT. Il y a des agriculteurs, on peut être un agriculteur très brillant, bien entendu, mais il y a des gens de beaucoup de conditions, instituteurs, bien sûr professeurs d'université, il y a de tout. La question, c'est que l'Opus Dei, comme je vous l'ai dit aussi au début, le travail de l'Opus Dei est un travail de formation. Donc, pour donner de la formation, il faut des formateurs. Et donc, d'un point de vue temporel, la construction de l'Opus Dei dans les villes, ou en France, ou dans les pays, se fait, au départ, par la recherche des formateurs. Parce que si vous donnez une formation sans avoir des personnes qui cherchent à pouvoir être des enseignants, des personnes qui étudient la théologie, etc. Donc c'est certain que d'un point de vue temporel, au départ, vous cherchez des personnes
en capacité de former, donc
des universitaires, etc. Donc des personnes qui ont des cadres, etc. Mais immédiatement, la formation s'adresse à tous. Et dans les pays où l'Opus Dei est largement plus développé, elle arrive dans les milieux très ruraux, très ouvriers, etc. Quant à notre siège, il me semble normal, étant un lieu de représentation, qu'il soit accessible à tous. On n'est pas dans une représentation luxueuse, pas du tout, je vous rassure. Mais il est normal que ce soit un lieu de représentation.
D'accord. Et c'est-à-dire que parfois, il y a des centres de l'Opus Dei qui sont installés en banlieue ou que...
À Paris, vous trouvez à Bois-Colombes. Alors vous me direz, c'est dans le 92, c'est-à-dire dans l'ouest parisien. Mais enfin, Bois-Colombes n'est pas une banlieue privilégiée de Paris. Où vous trouverez à Nantes, pas très loin d'Orvault, justement, là où il y a eu ces difficultés, en lointaine banlieue de Nantes. Les deux centres de l'Opus Dei. Donc vous voyez, il n'y a pas des implantations. Enfin, ce que nous cherchons aussi, c'est être facile d'accès. Donc souvent, la facilité d'accès.
En centre-ville.
fait effectivement que l'urbanisme est fait de cette manière-là. Mais il n'est pas non plus écrit qu'il faille être dans les beaux quartiers.
Voilà, et c'est-à-dire aussi que, enfin, comme d'autres mouvements d'église, hein, comme d'autres communautés chrétiennes, évidemment, vous essayez de partager ce qui fait votre charisme avec d'autres. Donc, il y a un certain zèle de membres de l'Opus Dei, mais vous ne cherchez pas d'abord à toucher des élites. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas d'abord dans les élites. Il n'y a pas de consigne interne pour dire
non, pas du tout.
Recrutons les cadres.
Pas du tout. Non. Il n'y a pas de consigne de ce genre. La consigne, c'est de faire de l'apostolat dans son milieu de travail, c'est-à-dire avec ses amis.
S'il se trouve que sans, c'est
avec le respect de la laïcité,
font partie des élites, du coup, ils touchent prioritairement
tout le monde. Mais vous savez, moi, comme prêtre aussi, je suis dans la rue, tout le monde vient à moi. Et parce que je porte un habit reconnaissable. Et ne pensez pas que les personnes qui viennent vers les prêtres soient uniquement des élites, tout le monde. Et quand on essaye de rayonner le message chrétien au milieu du monde, vous vous adressez à votre médecin, à votre boulangère, qui est à vos côtés, sans agressivité, prosélytisme exagéré, mais avec le désir de transmettre l'évangile, tout simplement. Donc il n'y a pas une stratégie, une tactique, allons vers le chef, quoi, vous voyez.
Alors, si on avance sur des... Pardon, j'espère que c'est pas pénible pour vous, mais vous devez être bien évidemment habitué à bien pire, donc je continue malgré tout, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'auditeurs
essayer de le prendre avec humour.
Qui se posent ces questions-là. Vous remarquerez que nous sommes plutôt bienveillants. Hein. Y a un certain nombre d'autres critiques qui sont faites et qui ressortent dans cet ouvrage, entre autres, ce serait un certain manque de liberté. Alors là-dessus, c'est vrai qu'il suffit de taper sur Internet Opus Dei, et puis on tombe par exemple sur un site qui s'appelle Opus Libre, avec des titres rudes, un ouvrage Dans l'enfer de l'Opus Dei, paru aux éditions Albin Michel. Je pourrais citer encore un autre ouvrage où il est parlé de manipulation mentale, etc. etc. Dans l'ouvrage, dans ce livre d'entretien, Philippe Legrand, directeur de la com de Paris Match, fait écho à, semble-t-il, un livre qui a fait beaucoup de bruit et de mal à l'Opus Dei, probablement, d'une certaine Maria del Carmen Tapia, qui s'appelle Au cœur de l'Opus Dei, donc aux éditions Albin Michel, lui aussi publié, et qui, principale critique, je ne l'ai pas lu, soulignerait parfois ce manque de liberté des membres à l'intérieur de l'Opus Dei. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'Opus Dei réagit à ces critiques récurrentes? C'est vrai que de fait, pour le moment, on peut, si on est bienveillant avec vous, se dire que vous n'avez pas de chance ou qu'il y a un certain acharnement, et en même temps, il n'y a pas des tonnes de livres qui sortent sur le chemin neuf, la communauté de l'Emmanuel et autres. Alors comment vous répondez à cette interrogation?
Mais écoutez, l'apparition de quelques livres qui n'ont pas eu beaucoup de succès, je tiens quand même à le dire, parce que des livres qui dégagent le fiel à ce niveau-là sont pas forcément des livres à succès. Mais si vous regardez...
Parce que ce sont tous des livres très caricaturaux ou...
Oui, en tout cas celui-là. Mais si vous voulez, depuis la sortie de Da Vinci Code, il y a des produits dérivés, si vous voulez. Et donc s'il est clair que vous regardez tout simplement au niveau des dates de publication, il y en a eu un certain nombre négatifs sortis à ce moment après. Hein, parce que je pense qu'il est logique de vouloir vendre du livre. Hein, à partir Da Vinci Code nous a donné une notoriété importante, mondiale.
C'est 28 millions d'exemplaires quand même vendus.
C'est énorme. Où on présente un moine qui se flagelle et qui tue une religieuse à Saint-Sulpice. Enfin, bon, des choses épouvantables. Un moine de l'Opus Dei. Donc, vous voyez, c'est une situation assez caricaturale. Alors. Évidemment, je crois que si on n'écoutait pas les gens qui vous critiquent, on aurait bien tort. Et je crois que nous, dans l'Église catholique, depuis le début, on a toujours écouté les personnes en interne qui ont critiqué des articles de la foi. C'est ainsi que la théologie s'est faite. À partir des moments où les gens ont émis des réserves, des critiques, Et il est évident que moi, je suis à l'écoute des personnes, et si certaines d'entre elles ne se sentent pas dans une situation de liberté, je suis évidemment extrêmement sensible à cela. La question qui se pose, c'est celle du départ de l'Opus Dei. Lorsque vous avez un engagement qui est très exigeant, c'est un peu comme dans le mariage, et que vous divorcez, donc vous vous séparez du conjoint, souvent il peut y avoir des situations donc de grandes tensions, hein, de reproches, parfois très biaisés de l'un à l'autre, il peut y avoir des conflits de ce genre. Et donc je comprends très bien que des personnes qui se sont investies très fortement au sein de l'Opus Dei dans leur vie, si elles ont quitté l'Opus Dei, puissent ressurgir avec une réécriture de leur vie faite avec amertume. Je l'entends, je l'écoute, et évidemment, je crois qu'il faut y être sensible. Et nous, si vous voulez, dans notre message de base, il me semble, si vous voulez, que la liberté des laïcs, c'est le cœur du message aussi.
Alors peut-être derrière cette question, quand on connaît un tout petit peu plus, la question sous-jacente, au-delà des ouvrages qu'on a cités, c'est la direction spirituelle. Puisque oui. Donc il y a une direction spirituelle assez musclée, on va dire, hein, pour faire court, enfin importante en tout cas. Elle n'est pas forcément musclée, en tout cas elle a une part importante, puisque
c'est notre activité.
Son accompagnateur spirituel presque toutes les semaines, c'est ça ?
Non, c'est plutôt tous les 15 jours.
Tous les 15 jours.
Oui. Ou à certains moments, ou pour certaines personne, elle le désire toutes les semaines.
Alors comment
ça dépend.
Comment vous parleriez de cet accompagnement? Déjà, quel terme vous utilisez? C'est accompagnement, direction spirituelle. Et puis on verra peut-être en troisième partie un peu quel est le propre de la vie à l'intérieur de l'Opus Dei.
Donc traditionnellement, on appelait cela, dans le langage de l'Église, la direction spirituelle. Le terme a évolué en l'appelant maintenant accompagnement, ce qui me semble très bien. Parce que le concept de direction peut supposer que la personne qui recourt au conseil d'une autre est dirigée dans le sens où elle perd sa liberté ou son autonomie, ce qui n'est pas du tout le cas. En revanche, être accompagné spirituellement, nous comprenons évidemment que ce sont ces rendez-vous qui sont brefs, parce que s'ils sont fréquents tous les 15 jours ou toutes les semaines, ils n'ont pas besoin de durer 2 heures. Enfin, cela dit, les personnes parlent le temps qu'elles ont envie de consacrer à cet entretien. Et dans cet entretien, eh bien, fait avec confiance et confidence, avec évidemment la confidentialité qui est requise pour ce genre de situation, mais les personnes parlent tout simplement de leur vie chrétienne, de leur avancement chrétien. Et le fait de pouvoir un peu se livrer à une autre personne, à une tierce personne, prêtre ou laïque, formé et expérimenté à cela, bien nous permet de nous connaître, de nous simplifier, hein, parce que de trouver une oreille attentive, le simple fait de trouver une oreille attentive qui m'écoute, à qui je peux confier un souci, et à la fin qui me dit « je prie pour toi » ou qui me donne un conseil, c'est cela, être accompagné spirituellement. Et donc, ce doit être, nous devons faire toujours très attention à ce que cela se fasse dans un climat de grande liberté, c'est certain. Et notre l'action, hein, de la mienne et celle des directeurs de l'Opus Dei, c'est de veiller à ce que les choses se passent du mieux possible. Après, nous sommes des humains, et je crois que celui qui n'a jamais fait d'erreur, qui me le dise.
Alors, dernier sujet de critique ou de réserve, ce serait une certaine culture du secret. Alors, peut-être à la différence de d'autres mouvements, par exemple, je sais pas, on va sur le site internet d'un diocèse, on a envie de rencontrer une communauté religieuse, ou on a envie de faire partie d'une communauté nouvelle, etc. On trouve assez facilement, et puis... ces communautés, mouvements, paroisses, etc., ont d'une certaine manière pignon sur rue. À l'Opus Dei, il y a la culture d'une certaine discrétion. On fait partie de l'Opus Dei, mais on ne le dit pas trop. Est-ce qu'il y a une raison à cela, ou qu'est-ce que vous répondriez à cette discrétion pour laquelle vous êtes en partie connu ?
Ben, c'est plutôt du naturel, si vous voulez. Avant d'être prêtre, j'ai été ingénieur. J'ai travaillé comme ingénieur dans une entreprise et je parlais avec des clients, avec des fournisseurs, j'étais dans un bureau d'études, j'avais un chef, j'avais des collègues. Mais si vous voulez, moi, je vivais mon travail comme ingénieur et je ne leur parlais pas de religion et de mon engagement religieux personnel. En plus, en France, on fait attention à ce qui est de la sphère privée et de la sphère publique. Donc, je le cachais pas. Ma condition de chrétien. Et je pense qu'il y a beaucoup de catholiques qui vivent comme ça dans le monde du travail. Ils ne le cachent pas, ils ne le disent pas non plus nécessairement. ils n'en ont pas honte. Alors parfois, éventuellement, ils peuvent se dire « Bon, mais que va penser mon chef si je lui dis que je suis chrétien ? Le vendredi, je mange du poisson en carême. Hein, » et donc, voilà, ils vont me dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais il y a une forme de vie du chrétien dans la société, dans son travail. Donc c'est précisément du naturel, si vous voulez. Et il est évident qu'il n'y a pas de secret, puisque nous appelons à faire de l'apostolat dans le monde du travail, mais un apostolat d'amitié. C'est-à-dire que moi, je veux bien, je parlais de religion avec mes amis. Si mon patron n'était pas un ami, j'avais pas nécessairement l'envie de sortir d'un sujet professionnel et de parler avec lui de religion. Hein, vous voyez. Mais si je pouvais trouver des ouvertures chez l'un ou l'autre pour parler de Dieu, ben, je le faisais de manière très naturelle. Donc en fait, les laïcs qui font partie de l'Opus Dei sont des personnes qui vivent avec un grand naturel. Ils se cachent pas. Mais ils
sont discrets. Ils sont... C'est le choix de la discrétion.
Oui, mais pas de l'ostentation, on va dire. Exactement.
Voilà, je rappelle donc le titre de ce livre d'entretien avec vous, donc Monseigneur de Rochebrune, Opus Dei, confidence inédite aux éditions du Cherche Midi. On fait une deuxième pause et puis après, on va parler, et là, c'est peut-être un peu rapidement, creuser un peu votre spiritualité, la spiritualité de l'Opus Dei.
Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, donc Opus Dei, qui sont-ils vraiment, avec Monseigneur de Rochebrune, donc vicaire de l'Opus Dei pour la France, c'est-à-dire son responsable, donc qui sort, enfin d'une certaine manière, un livre d'entretien aux éditions du Cherche Midi avec Philippe Legrand, donc je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, mais peut-être que certains nous prennent en cours de route, directeur entre autres de la communication de Paris Match, livre intitulé Opus Dei, confidence inédite. Alors avec vous, Monseigneur de Rochebrune, on a vu rapidement, hein, mais on fera d'autres émissions, quelle était un peu la genèse de l'Opus Dei, donc né autour de ce fondateur, Saint Rosé Maria, canonisé en quelle année déjà ?
2002,
donc déclaré saint par l'Église. Quelle était cette spiritualité, donc cet appel à la sainteté de tous les laïcs dans la vie quotidienne, ordinaire, particulièrement dans le travail. Et puis, vous avez eu la gentillesse de répondre à quelques-unes de nos questions quant aux critiques qui sont adressées à l'Opus Dei. Évidemment, c'est rapide. Et ça demanderait peut-être plus de développement, mais on peut pas faire toute une émission là-dessus. À la fin de cette émission, je voulais un peu que vous nous racontiez ce que vivent les membres de l'Opus Dei. Donc il y a des membres laïcs, il y a donc des prêtres, des consacrés, on appelle ça donc des numéraires, d'autres des surnuméraires, enfin j'ai envie de dire peu importe le jargon, mais que vivent ces personnes, puisque la marque de fabrique vue de loin de l'Opus Dei, c'est semble-t-il un appel à une certaine radicalité dans la vie chrétienne. Alors, si oui, quelle forme prend cet appel à la radicalité ?
Saint José Maria parlait du plan de vie. Hein ? Je m'explique. Qu'est-ce que le plan de vie ? Le plan de vie, c'est mettre dans sa journée des rendez-vous de prière avec Dieu. Quels sont-ils ? L'oraison, deux demi-heures d'oraison. C'est pas rien, hein, deux demi-heures de méditation, donc une heure le matin, une demi-heure l'après-midi.
Une heure de prière personnelle, donc.
Voilà, hein, de prière personnelle aidée d'un texte, de l'évangile du jour, vous voyez, voilà, face à face avec le Seigneur. La Sainte Messe, donc à la paroisse, on se débrouille aussi pour chercher une messe, hein, qui puisse convenir à son horaire. La récitation du chapelet, que la Sainte Vierge a tellement conseillé, et notamment à Fatima, hein, c'est le centenaire des apparitions de Fatima. Un moment de lecture spirituelle, c'est-à-dire lire un livre, je sais pas, de la spiritualité, Saint Thérèse d'Avila, etc., ou de curé d'Ars, peu importe. Un moment de lecture d'évangile, hein, aussi. Vous voyez, placer tout ça dans sa journée, l'examen de conscience le soir, un bref moment de regard sur sa journée.
Ça, quel que soit l'état de vie, en fait. C'est-à-dire que je suis père de famille, j'essaie de me tenir à ce programme.
Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est ce que l'Opus Dei propose. Hein. Donc, de réaliser ce plan de prière, ce plan de vie quotidien.
C'est-à-dire, on définit, en fait, avec son accompagnateur spirituel, un plan de vie, et puis après, on essaie de s'y tenir, en fait.
Voilà.
On dit, voilà, je vais me lever à 7h, prier le matin, le soir, à 21h30, quand les enfants sont couchés.
Voilà. Ou alors, on se dit, ben, je vais essayer de prier dans ma voiture, hein, quand on va au travail, si vous voulez. Donc là, on récite un chapelet dans sa voiture, ou on essaie de se recueillir là où on peut, là où on veut. Il n'y a pas d'endroit, évidemment, y a l'endroit par excellence, c'est l'église, hein, pour prier une chapelle, etc. Mais à part la messe, que vous ne pouvez pas la voir ailleurs que dans une église, tout le reste, vous pouvez le faire où vous voulez. Dans la rue, chez vous, en vous isolant un peu dans le travail, à l'heure que vous choisissez. Hein, c'est vraiment à vous de voir. Après, cette forme d'exigence, si vous voulez, elle est un objectif à rejoindre, elle n'est pas une obligation à vivre. Parce que si on commence à voir, tout comme dans une situation amoureuse, les situations amoureuses ou d'amour ou du sacrifice d'une mère pour son enfant, c'est pas qu'elle est obligée de se lever la nuit pour aider son enfant qui pleure la nuit. C'est elle se sacrifie par amour de son enfant. Donc, si vous voulez, la logique, elle est dans l'amour. On est poussé par l'amour à essayer de rejoindre ce plan de vie qui, comme vous le voyez, demande de consacrer au Seigneur pas mal de temps.
Ça fait presque 2 heures par jour, en fait.
Voilà. Après, il y a les formations qu'on reçoit, hein, hebdomadaires, parce que l'Opus Dei arrive.
Donc c'est 2 heures par jour plus une soirée par semaine, c'est ça, c'est...
Plus une heure environ, une heure ou deux par semaine, hein, entre l'accompagnement spirituel, la confession et le cercle de formation chrétienne qu'on peut recevoir. Vous pouvez mettre 2 heures par semaine, oui, si vous voulez, de plus. Ou une récollection dans le mois, c'est-à-dire là aussi 2 heures. Une retraite chaque année, hein, et une rencontre de formation d'une petite semaine. Donc vous avez là un petit peu le panorama qui est proposé. Comme vous le voyez, l'Opus Dei ne fait pas du marketing et de la publicité parce que pour vivre cela...
Ça en découragerait beaucoup, c'est ça que vous voulez dire?
C'est-à-dire que ça s'adresse aux personnes motivées, oui. Non, pas simplement que ça en découragerait, c'est nous recevons les gens motivés et on n'est pas là en train de dire « Allez, venez ». On sait que le chemin qui est proposé, d'ailleurs le chemin de la sainteté en général, n'est pas un chemin facile.
Alors, est-ce que vous pouvez, expliquer le pourquoi de cette radicalité, puisque c'est quand même assez radical, en l'occurrence.
Mais je veux dire, lorsqu'on est saisi par l'amour de Dieu, qui est un amour de miséricorde, on se rend compte que Dieu, où on le met totalement dans sa vie, avec une forme de cohérence très forte, interne, hein, où on va mettre en cohérence ses actes, sa relation avec les autres et sa relation avec Dieu, où on est dans une logique où on se remplit de Dieu, et là, il faut se mettre au travail, hein, ou sinon, on risque de vivre un christianisme un peu tiède, dans lequel, finalement, on n'est pas dans une dynamique de sainteté, on est dans une dynamique un peu d'accomplissement du chrétien du dimanche. Je dois dire, je l'étais avant de connaître l'Opus Dei, et c'est ce qui m'a saisi quand j'ai connu l'Opus Dei, c'est que je me suis dit, mais chrétien du dimanche, c'est déjà pas mal, aller à la messe tous les dimanches. Mais je priais pas beaucoup, et le fait de se dire, mais je peux mettre Dieu au cœur de ma vie et lui répondre par le fait de lui donner du temps et de cultiver cet amour, ben on trouve finalement que l'exigence se transforme en pratique amoureuse spirituelle, voyez. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Si vous regardez la Bible, l'Évangile, si vous priez, vous vous dites, mais c'est très intéressant de jeter le regard de Dieu, le regard du Christ sur la situation du monde, sur ma vie, sur mes relations familiales, professionnelles, sociales, etc.
Alors, il y a 2 autres points que je voulais aborder avec vous. C'est, il y a dans la spiritualité de l'Opus Dei une certaine forme d'ascèse. Alors, on lit des trucs dans la presse. Probablement peut-être un peu exagéré, mais il y a le fameux silice, voilà. Peut-être vous allez nous expliquer ce que c'est, mais j'ai même lu en préparant l'émission que les femmes chez vous les femmes consacrées, donc qu'on appelle donc des surnuméraires, si je ne me trompe
elle,
pas.
Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas la, la, la...
Enfin, c'est, non, c'est le, laïque consacrée.
Femme, laïque... En fait, le mot consacré désigne déjà une réalité religieuse, si vous voulez. Hein,
non, c'est les numéraires, pardon.
Oui.
Hommes et femmes célibataires.
Voilà, qui ont plutôt la vocation au célibat, mais sans être religieux.
D'accord.
Hein, parce qu'elles travaillent...
Enfin, toujours est-il que ces femmes seraient obligées de dormir sur, par terre ou sur des planches chez vous, alors.
Non, obligées.
Bon, au-delà des...
Personne n'est obligé.
Voilà, au-delà des caricatures, est-ce que vous pouvez nous parler quelle est la part de l'ascèse dans votre spiritualité et puis qu'est-ce que vous essayez de mettre en œuvre dans votre vie sur ce sujet?
Il s'agit plutôt de choses qui ne sont pas exagérées, mais de la vie courante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer et chercher à faire un travail sur soi-même d'amélioration personnelle sans un petit effort du quotidien soutenu. C'est plutôt de cela dont il s'agit. C'est-à-dire que je ne peux pas envisager de grandir dans la patience, dans les relations pour un père ou une mère avec ses enfants, sans faire un effort pour grandir en patience. Et comment ? Ben, peut-être parfois dans un bouchon. Hein, pour évitons de klaxonner, de nous énerver en voiture, des choses comme ça. Donc l'ascèse, c'est cultiver ce sens de l'effort, du travail sur soi, pour améliorer son caractère, pour grandir en humilité, pour ne pas céder à la paresse ou à la sensualité, voyez, pour essayer de se vider un petit peu d'un moi terrestre et matérialiste qui prendrait trop de place, et pour essayer de devenir des êtres plus spirituel. Donc c'est la notion d'effort soutenu par la grâce, par les sacrements, parce que ici, si on omettait l'aide des sacrements, de la grâce, on serait uniquement dans une dimension humaine et pas spirituelle. Donc c'est pas chrétien, ça. Mais il doit y avoir de la part du chrétien, et on est en carême, cet effort qui est présent. Et c'est ce que nous présentons aux gens. On peut pas imaginer un christianisme qui oublie que Jésus a passé 40 jours dans le désert, hein, et qui nous dit que si on ne veut pas le suivre, il ne faut pas prendre sa croix. Enfin, au contraire, il nous a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Une croix quotidienne, faite de petits efforts.
Voilà, Monseigneur de Rochebrune, livre d'entretien avec Philippe Legrand, Opus Dei, confidence inédite aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Dans l'émission Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.